Bien, parce que je vais essayer de. Oui, je vais. C'est évidemment une vision personnelle hein, de les réflexions du jour. Et ce qui va m'intéresser, c'est en particulier comment la notion d'ambiance interroge nos manières de penser et de faire. Et je vais donc réfléchir autour de mots qui vont sembler décapants. Et pour certains, décapés. Décapés, c'est qui posent des questions, qui sont questionnées.
Pour que ela vai apresentar, evidentemente, uma visão pessoal do que aconteceu no dia de hoje, notadamente como a noção de.
Donc je vais prendre trois mots que vous m'avez suggérés et puis je terminerai par quelques questions qui m'ont semblé transversales. Alors ces trois mots, c'est culture, présence, désir. Culture, à tout seigneur, tout honneur, je vais dire. Travaillant maintenant au ministère de la Culture, j'ai été très contente de voir que ce mot figurait en fait de l'intitulé de notre journée, le 4 novembre. Ce qui m'a semblé intéressant à propos de cette notion de culture, c'est justement qu'il y a une remise en question de la catégorie sociologique de culture qui est souvent considérée comme close, imposée aux hommes. Ceci, cette remise en cause de plusieurs façons. D'abord parce que nous avons vu la culture comme vécu en commun. Et que ce vécu en commun nous est apparu comme un aspect majeur de la société contemporaine. Que ça s'effectue sous la forme de communautés, de tribus ou autres. La culture, au sens sociologique du terme, est aussi remise en question par sa vision comme ensemble de potentiels différents. La culture est même pensée, vécue comme un mixte, comme un mixage, et où ce qui est entre les espaces, entre les hommes, est sans doute plus important que ce qui est de manière permanente, durable, imposée. Et cet aspect de inter, entre, nous touche, je veux dire, par rapport aux recherches que je cherche à développer au niveau du ministère de la Culture, nous touche particulièrement. C'était l'un des thèmes que j'avais proposé pour ce colloque, qui était que les ambiances soient travaillées avec la ville, et en particulier la ville interculturelle. D'où le plaisir d'être ici à Rio pour tester particulièrement l'interculture. Autre façon d'aborder la question de la culture qui m'a semblé intéressante ici, c'est aussi la résonance, on l'a dit, et je l'entends, comme je vais l'expliquer ensuite, comme une énergie. C'est ce qui se diffuse. C'est aussi ce qu'a bien expliqué Jean-François Goyard hier, et que je trouve particulièrement important, c'est de penser l'espace, les hommes, et ici la culture, comme énergie émise. Émise par les espaces, émise par les objets, émise par les attitudes des hommes, qui entrent ainsi, d'une certaine manière, en correspondance, ou au contraire, qui se repoussent, etc. Il y a des formes de résonance qui vont se traduire justement par des expressions culturelles. Et d'un point de vue politique, ce qui m'a frappé aussi lorsque nous avons dit aujourd'hui, c'est l'opposition entre deux conceptions de la culture comme outil urbain. Nous connaissons bien en Europe cette conception de la culture aujourd'hui comme, je dirais, nouveau salut des villes contre l'abandon des usines. Toutes les villes maintenant pensent que leur attractivité va venir de la culture. Toutes les villes en Europe rêvent de devenir des et capital culturel. C'est une première conception de la culture comme nouvelle source d'attractivité économique et sociale, et aussi comme réponse aux impasses de l'urbanisme aménageur fonctionnaliste. Ça, c'est une première conception. Mais il y en a une deuxième qu'on sent émerger ici, qui est particulièrement intéressante et qu'il faudrait travailler sans doute, qui est la culture justement comme sensibilité. Et l'expression « socialisation du sensible » qui a été lancée me semble être à continuer à réfléchir, travailler, elle me semble prometteuse. Voilà ce que je voulais dire sur la question de la culture. Deuxième mot, c'est la présence. Présence au sens fort. J'avais commencé déjà à tilter, à prendre ce mot-là, à l'entendre avec Jean-François hier. Ce que j'y ai entendu, c'est d'abord la présence comme expression de force. Un sensible qui serait actif, qui serait irradiation. À la fois irradiation des gens et des choses. Donc une présence qui est une présence pas passive, pas simplement un homme à côté d'un autre, ou un objet à côté d'un autre, ou un homme à côté, enfin dans un espace, mais qui est présence d'énergie qui se manifeste. Et je vais insister sur ce mot « manifeste » parce que j'ai trouvé aussi que dans tout ce qu'on avait dit, c'est quelque chose qui accroche particulièrement la réflexion. On a parlé d'épiphanie, et ça renvoie aussi à ce qui a été dit hier, justement sur ce qui se montre, la ville comme lieu qui se montre et où se montrer. Donc, toute cette idée de cette manifestation, de ce que Frank appelle le Feinestein, qui est dans le fait de se montrer, de révéler, il y a quelque chose qui fait éclater les normes, qui fait éclater les règles, parce qu'on va forcément au-delà de ce qui est admissible, etc., du poli, qui fait éclater les normes, qui fait éclater l'ordre. Et il m'a semblé qu'on peut en tirer trois choses de cette façon de voir l'importance de la présence. D'abord, justement, la présence interroge la culture. Elle interroge la culture comme ensemble de codes ou ensemble de normes, certes nécessaires, partagées, mais la présence comme irruption, manifestation, l'interroge. Deuxièmement, la présence interroge la co-présence. On en a pas mal parlé, et il me semble qu'on l'a vu un peu de deux façons. Il y a une première façon, qui est assez anthropologique, qui est la confrontation des usages dans l'espace, vu à propos des commerces, etc., qui appelle une négociation des usages dans l'espace. Mais ce qui m'a semblé le plus neuf à propos de cette co-présence, c'est justement l'interrogation sur la compatibilité des forces, des sensibilités différentes, des aspirations individuelles et collectives. Et tout cela, quand je dis la présence interroge la co-présence, c'est parce que il y a des dynamiques potentiellement contradictoires. Voilà, aspiration à la présence et en même temps des dynamiques potentiellement contradictoires. Enfin, à propos toujours de cette question de la présence, il m'a semblé que cela donnait un jour nouveau sur la nécessité de considérer les hommes comme acteurs, comme producteurs de ville, producteurs d'ambiance d'abord, et producteurs de ville. C'est-à-dire que l'accent a été mis aujourd'hui sur la ville qui se fait, qui est en train de se faire, et non pas la ville qui qui est faite par, disons, les décideurs politiques qui on pourrait penser faites ce que vous voulez, faites les ambiances, etc., montez sur les statues, pourvu que vous ne remettiez pas en cause le pouvoir de faire la ville, que vous ne remettiez pas en cause les façons de penser les espaces urbains. Et on l'a bien vu dans le débat sur l'espace public, qui peut être pensé comme projet politique approprié justement par les hommes politiques, comme imposition d'une image de ville unifiée, scénarisée, sécurisée, ou bien, et c'est là aussi, je vois, dans ce dont on a parlé aujourd'hui, l'émergence d'une autre façon de penser cet espace public comme emblème, lieu emblématique de la ville, expression emblématique de la ville, et c'est justement cet espace public, cette ville, je vais dire avec des tirets comme en allemand, la ville sensible, en commun, en conflit. Parce que je ne sais pas départager les choses, donc je les mets en tirets. Troisième mot, c'est le désir. Sans doute le mot le plus décapant et qui nous a tous interpellés, parce que justement, il est une forme de révélation pouvoir de l'éros. Éros grec, qu'on trouve dans l'érotisme, de l'amour, mais comme force, justement. Et ce qui m'a semblé émerger, c'est justement que le désir pouvait être ici pensé comme substance de la vie. On l'a vu à propos de cette métaphore psychanalytique, des espaces ouverts qui peuvent du coup devenir des espaces pénétrables, ou bien la métaphore d'une matrice, je pense au tableau de l'opère qui nous ont été montrés et certaines photos qui ont été prises aussi. Mais le désir comme substance de la vie, il nous a été dit aussi que c'était la forme peut-être la plus fondamentale de l'hospitalité urbaine, dans sa dimension anthropologique, profonde et remontant dans les siècles. Dans le désir, j'ai entendu aussi une autre façon de le penser, qui me semble importante, c'est la tension vers le possible et l'impossible, parce que le désir dit toujours l'impossible, ce qui ne peut pas être réalisé, la tension ou l'attente ou l'appel de ce qui, donc le désir comme ce qui fait advenir, arriver, ce qui n'est pas encore. Et par exemple, j'ai entendu deux questions qui sont « Quel est le possible offert par l'autre ?» L'autre individu, pareil ou complètement différent de moi. « Quel est le possible offert par tel espace ?» Et à partir de là, nous avons aussi senti que le désir pouvait, d'une certaine manière, définir la condition d'existence de l'homme dans le monde et donc plus concrètement ici dans les espaces urbains. Enfin, sur le désir, j'ai eu l'impression que le désir était particulièrement un mot, une notion révélatrice de la coupure entre l'homme sensible et l'espace matériel, fonctionnel, dont nous avons aussi parlé hier, des limites de cette séparation. dire même l'erreur de cette séparation. Ce que j'ai entendu, moi, dans cette journée, c'est au contraire des propos qui imbriquent, articulent complètement les regards, les modes d'analyse et qui révèlent ainsi les exigences de l'existence humaine dans leur pluralité, leur totalité, leur contradiction, y compris leur dimension justement sexuée, et quand on sait qu'elle est profondément contradictoire. Donc un désir qui est révélateur des contradictions existentielles entre ces exigences. Et faire société, c'est, tel que je l'ai entendu moi à travers les propos d'aujourd'hui, faire société, c'est expérimenter les liens et les frontières entre les lieux, entre les hommes, etc. J'insiste beaucoup, c'est à la fois les liens et les frontières. Je vais terminer avec quatre petites questions transversales qui pourraient peut-être ensuite nous emmener plus loin dans d'autres recherches. Juste quelques pistes. Première question qui serait qui est d'ordre épistémologique. On a dit qu'on pouvait peut-être s'interroger sur la pertinence de notre réflexion sur la ville. Je crois que c'est une question qui vaut. Est-ce que nous parlons ici de la ville seulement occidentale, comme une sorte de gros village, un village qui a grossi, dont rêve encore, ou bien est-ce que la réflexion que nous faisons ici sur le sensible et la ville, elle peut être apportée universelle parce qu'elle serait profondément existentielle. Deuxième question, et qui va irradier aussi les autres, c'est plutôt des questions politiques. Et je prends d'abord politique au sens de la question du partage du sensible, pour reprendre l'expression de Rancière, de Jacques Rancière. Et j'ai senti courir dans tout ce qu'on a dit la question, au fond, qui a part à la vie ? C'est toute la question du partage, qui a part à être dans la vie, dans les espaces, ou à partager les ambiances, et aussi qui édicte, qui dit les normes. Qu'est-ce qui est partageable ? Et au-delà, qu'est-ce qui doit être partagé ? Et au nom de quoi ? Donc là, il y a toute une interrogation sur la tension entre l'idéal de l'unité, dont on a parlé dans la ville, et une valorisation, une reconnaissance et une valorisation des différences, qu'elles soient individuelles ou collectives. Là, il y a tout un sujet de débat extrêmement important. Troisième question, qui découle de la précédente, également éminemment politique, c'est qu'est-ce qui fait la ville ? Non pas simplement qui fait la ville, mais quelle est la matière qui fait la ville ? On a eu différents types de réponses, on a plus ou moins accepté ou rejeté. Est-ce que c'est des espaces bien conçus, rationnels ? On est au-delà maintenant de ce type de réflexion. Est-ce que c'est justement la culture comme événement et la ville comme immense parc d'attractions, pour reprendre une expression de ce matin ? Ou bien est-ce que justement ce qui ferait la ville, ce serait ce sensible partagé ? Et la question du tiers qui a été posée au débat par Jean-Paul me semble tout à fait pertinente à ce propos-là, quand, si j'étends justement la question du tiers qui était posée à propos de l'espace public, si je l'étends à la ville elle-même, est-ce que le sensible fait la ville, ou est-ce qu'on peut le penser aujourd'hui, en tout cas pour l'époque d'aujourd'hui ? Et dernière question, c'est une interrogation sur, là aussi, deux façons de penser la ville, et cette fois, qui fait la ville? C'est-à-dire, est-ce que ce sont les décideurs qui font la ville? Est-ce que ce sont les planificateurs qui font la ville? Ou bien la ville, faut-il penser la ville qui est, la ville qui se fait par la vie des gens, par leurs affects, leur sensibilité, leurs conflits. Donc, est-ce la fin annoncée de l'urbaniste, ou bien est-ce le début d'un autre modèle professionnel? Voilà, de nombreuses pistes de recherche qui sont à la fois conceptuelles, méthodologiques, pluridisciplinaires. On n'en est encore qu'au premier grand jour. On en aura encore deux. Merci.